arrivé 11h30, Infomag, Lionel Sabot.
Un dramatique accident hier dans le centre-ville de Nouméa. Un homme en fauteuil roulant est décédé après être tombé à l'eau quai Ferry. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Quel rôle les agricultures familiales peuvent-elles jouer pour assurer la résilience des petits pays et territoires insulaires? C'est la question posée au cœur des travaux du projet FALA, dont la restitution a lieu depuis ce matin à l'UNC. Près d'une trentaine d'associations environnementales sont regroupées à Bouraï. L'Office français de la biodiversité a organisé une matinée d'échanges sur les enjeux environnementaux du territoire. La tension est encore montée d'un cran entre la France et l'Algérie. Très tôt ce matin pour nous, l'Algérie a refusé la liste de noms d'une soixantaine de ressortissants à expulser. Et puis Jean-Luc Mélenchon, très virulent à l'endroit d'un journaliste de France 3, interrogé à propos de l'affiche diffusée par la France Insoumise qui représente Cyril Hanouna, le leader de LFI, est sorti de ses gonfles. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. La semaine de la langue française et de la francophonie s'est ouverte vendredi dernier. Comme chaque année, de nombreux événements sont organisés à cette occasion. Pour en parler, Jean-François Bodin recevra juste après ce journal dans notre magazine citoyen Alcide Ponga, président du gouvernement, en charge notamment de la francophonie, Valérie Meunier, la présidente du CREPAC, Daniel Mirou, président de l'association Alliance Champlain, ainsi que Julien Barret, poète linguiste, qui est l'invité de cette semaine de la langue française et de la francophonie. Nous accueillerons également Ratwidi Boquet, élève du CREPAC d'origine thaïlandaise et qui suit des cours de langue française dans la perspective de sa naturalisation. Citoyen spécial semaine de la langue française et de la francophonie, c'est à suivre juste après ce journal. À la une ce midi, ce dramatique accident, c'était hier au centre-ville de Nouméa. Un homme en fauteuil roulant est décédé après être tombé à l'eau. Plusieurs signalements ont été effectués après que des témoins ont vu l'homme en situation de handicap tomber à l'eau avec son fauteuil alors qu'il circulait sur les quais Ferry juste en face du magasin Auchan. Les secours ont été dépêchés sur place aux alentours de 11h. Des témoins ont tenté de secourir l'homme mais n'ont pas réussi à le sauver. Son corps a finalement été retrouvé quelques heures plus tard par des plongeurs spécialisés de la gendarmerie nationale. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Actualité judiciaire et nous devrions connaître aujourd'hui le verdict du procès jugé actuellement aux assises de Nouvelle-Calédonie. Un drame sur fond d'alcool. En 2022, lors d'un mariage à Canala, un homme a poignardé à mort l'un des invités après avoir été agacé par son comportement. La victime présente au mariage avec son frère perturbait les festivités en se montrant agressif avec les invités lorsque l'auteur des faits lui a asséné deux coups de couteau à l'abdomen. Rapidement transporté au dispensaire, l'homme décédera plus tard des suites de ses blessures. Lors du procès qui s'est ouvert hier, l'accusé a exprimé ses regrets face au juré. Il a demandé pardon à la famille du défunt. Plusieurs témoignages devraient encore avoir lieu aujourd'hui, dont certains par visioconférence. L'avenir de la Calédonie, toujours au cœur des discussions. Le plan de reconstruction et de refondation du gouvernement a été présenté ce matin aux membres du Conseil économique, social et environnemental et régional. Léana Colombo.
Oui, le constat n'est plus à faire. Après les émeutes de l'année dernière, l'économie calédonienne est à terre. Mais comment les acteurs vont-ils pouvoir s'en sortir? C'est la question sur laquelle se penchait déjà le 17e gouvernement avec le PS2R, le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction. Le CESE de Nouvelle-Calédonie s'était également intéressé au sujet et avait émis des recommandations. Un avis suivi par les institutions, explique Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie. Il était présent à l'hémicycle de la province sud ce matin pour la restitution du plan.
On travaille souvent avec le CESE. C'est important de pouvoir travailler avec la société civile et les représentants de la société civile. On a au niveau du CESE différents représentants qu'on voit dans d'autres cadres, mais là, sur la partie reconstruction, nous avions des propositions sur la partie exportation, sur la partie agriculture, sur la partie compétitivité qui était important de prendre en considération. Et donc, sur la partie simplification administrative, où il y a eu un travail important du CESE et où on souhaite aller très loin dans la simplification des démarches aux Calédoniens. Donc non, c'était une bonne séquence d'échanges.
Et même si on ne parle plus de PS2R, mais de plan de reconstruction et de refondation, l'idée reste la même, souligne Christopher Gigès.
Peu importe le nom qu'on souhaite lui donner, l'esprit est là d'avoir une reconstruction qui soit importante sur le court et le long terme et qui associe l'ensemble des forces politiques et l'ensemble de la société civile. Il faut régler la situation des assurances pour que les entreprises puissent toucher leurs indemnités. On va en mettre en place une simplification administrative pour les entreprises qui souhaitent reconstruire, mais on est aussi sur une phase de plus long terme sur un modèle fiscal et social qui soit compétitif pour le coût du travail, d'avoir une fiscalité aussi qui soit attractive pour la Nouvelle-Calédonie et pour les entreprises. Donc beaucoup de chantiers en cours sur lesquels on souhaite avancer rapidement. On est vraiment dans une logique où on souhaite repartir de l'avant en Nouvelle-Calédonie et c'est bien l'objectif qu'on se donne, peu importe le nom qu'on lui donne.
Cette présentation du plan devant le Conseil économique, social, environnemental et régional aidera à porter au niveau national les différentes demandes de la Nouvelle-Calédonie concernant la reconstruction.
En bref, pour soutenir l'investissement, le gouvernement annonce l'élargissement des travaux déductibles de l'impôt pour tous les immeubles. Les propriétaires peuvent déduire les grosses réparations de ravalement et d'amélioration. Et pour les immeubles de plus de 2 ans, les travaux d'agrandissement, d'entretien et de revêtement. La nouvelle liste des travaux est applicable à dès la déclaration 2024, le plafond est fixé à 15 millions sur 3 années fiscales, 2025, 2026 et 2027. Le gouvernement informe par ailleurs que dans le cadre de la campagne de l'impôt sur le revenu, les locaux de la direction des services fiscaux seront exceptionnellement ouverts jeudi 27 mars, vendredi 28 et lundi 31 mars jusqu'à 17h et le samedi 29 mars de 8h à midi.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et voici notre question du jour. Selon vous, la présidente de la province Sud a-t-elle raison de porter plainte après la nouvelle provocation du groupe Initiative Bakou qui diffuse un clip incitant à la violence en Nouvelle-Calédonie ? Si vous pensez qu'elle a raison, vous tapez 1. Si vous pensez qu'elle a tort, vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 86% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que Bruno Retailleau a raison de menacer de démissionner si la France renonce à engager un bras de fer avec l'Algérie. Ils sont 14% à penser qu'il a tort. Les Républicains calédoniens poursuivent leur réunion d'information après le début des discussions sur l'avenir institutionnel. Ils tiennent une réunion publique ce soir à partir de 18h30 à la salle des communautés du Vallon d'Or. L'Université de la Nouvelle-Calédonie reçoit des chercheurs du Pacifique cette semaine. Après 4 ans de recherche, le projet FALA pour Family, Farming, Lifestyle and Health touche à sa fin. Des chercheurs venant du Pacifique et d'Europe sont réunis depuis 8h30 ce matin pour assister à 2 jours de conférence finale, Charlotte Coulson.
Depuis 2019, près de 95 chercheurs ont étudié l'impact des changements globaux sur l'agriculture familiale, l'évolution des modes de vie ou encore les conséquences sur la santé des habitants. Plus particulièrement dans les petits pays et territoires. Un projet piloté par l'Université de la Nouvelle-Calédonie qui avait reçu 150 millions de francs pour travailler avec ses partenaires, des chercheurs de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Europe, des Fidji, du Vanuatu, mais aussi des îles Salomon et évidemment du territoire. Olivier Galli est enseignant-chercheur à l'UNC. Il a, avec son collègue Jean-Marie Fautzing, coordonné le projet FALA depuis sa création.
On a essayé de permettre aux collègues de développer au mieux leur mobilité entre le Pacifique et l'Europe ou de l'Europe vers le Pacifique. Ensuite, en parallèle de ces mobilités, on a organisé 10 événements scientifiques, dont le dernier a lieu à l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour 3 jours de conférences. Et à cela s'est adossé de la formation des doctorants, de la recherche sur des terrains d'application, Vanuatu, Fidji, Nouvelle-Calédonie et Îles Salomon principalement. On a plus de 40 communicants qui vont prendre la parole sur des activités centrées soit sur l'agriculture familiale, soit sur le mode de vie, la santé, le transfert de connaissances, mais également des travaux qui sont transverses, qui touchent à la fois l'alimentation et bien sûr la production, l'agriculture familiale ou la pêche à petite échelle. Et la richesse de ce projet, c'est son interdisciplinarité. On est tous d'horizons totalement différents, mais sur des objets de recherche partagés et communs, que sont l'agriculture familiale, le mode de vie et la santé.
Un projet qui a donc favorisé la mobilité de chercheurs du Pacifique, par exemple du Vanuatu. Pierre Metzan est venu assister à la conférence finale du projet FALA. Il représente le ministère de l'éducation de l'archipel et surtout l'université nationale du Vanuatu. Comme il l'explique, l'interdisciplinarité du projet a permis à ses équipes d'étudier de nombreux sujets.
Nous bénéficions de ce projet à travers les mobilités que FALA met à notre disposition. Et grâce à cette mobilité, il y a au moins une dizaine de doctorants qui poursuivent actuellement leur thèse. La plupart des doctorants sont dans les domaines des sciences de l'éducation. Il y en a 2 qui sont dans le domaine de l'agriculture. On a une qui travaille sur les fruits à pain et l'autre travaille sur les choux des îles. Ce qui est important dans FALA, c'est surtout les échanges, quelle que soit la thématique. C'est là où nous, on choisit le domaine de l'éducation pour voir Dans quelle mesure nous pouvons, par exemple, adapter les programmes scolaires pour pouvoir intégrer davantage les pratiques agricoles, les savoirs traditionnels, locaux? Dans quelle mesure on peut utiliser ces savoirs-là pour pouvoir repenser nos programmes scolaires?
Et les travaux comme ceux de l'Université du Vanuatu seront tous présentés au cours de ces 3 jours de rencontre. Notez qu'une conférence publique se tiendra ce soir à 18h dans l'amphithéâtre 400 de l'Université de la Nouvelle-Calédonie.
Comment encourager l'agritourisme en province sud? Le premier café tourisme se déroule à Fort-Terrain-Bas sur la thématique « Le bonheur est en brousse ». Des acteurs du milieu touristique se retrouvent pour échanger, débattre et trouver des pistes de réflexion quant à la valorisation du tourisme en milieu rural.
À Radio Rythme Bleu, 11h41.
Une délégation du Conseil économique, social, environnemental et régional de France et des Outre-mer est actuellement en Nouvelle-Calédonie. Elle comprend les présidents de plusieurs CESE de métropole et d'outre-mer et conduite par son président Dominique Vienne qui était notre invité du matin, Elisabeth Noir.
Dominique Vienne, originaire de La Réunion où il est chef d'entreprise et où il a présidé la CPME, est le premier président ultramarin à occuper ses fonctions de président du CESER. Sa délégation devait venir en Nouvelle-Calédonie en 2024. Déplacement reporté, bien sûr, en raison des émeutes de mai. C'est donc cette année que les représentants du CESER sont sur le territoire, mais ils sont bien sûr sensibles à l'actualité calédonienne et à ce qu'a vécu la Calédonie il y a 10 mois.
Quand on est arrivé depuis 3 jours, on peut pas dire j'ai compris les choses. Mais il y a un triptyque qui tourne dans la tête, c'est l'urgence de l'apaisement, l'exigence de comprendre et la responsabilité de reconstruire. Je pense que ce triptyque d'apaiser, de comprendre et de reconstruire doit être les 3 forces qui tirent les choses vers le haut. Mais encore une fois, je le fais avec respect et humilité, puisque qui suis-je pour avoir tout compris comme ça en 3 jours? Maintenant, si on est venu aussi, c'est pour dire que dans tous les territoires d'Hexagone et d'Outre-mer, les conseils économiques et sociaux nourrissent et peuvent être facilitateurs de ce genre de situation. Pourquoi? Parce que dans nos assemblées, nous représentons toute la société civile organisée. Nous sommes un point d'équilibre entre les intérêts catégoriels, salariés, employeurs, associations, ONG. Et trouver des points d'équilibre dans les sociétés d'aujourd'hui, c'est rare. Donc nous disons, nous pouvons être facilitateurs pour être un point d'équilibre dans des moments où il faut converger, faire du consensus et non pas faire que des débats sous l'émotion. Nous aimons dire que nous faisons des débats sur la raison.
Le CESE de Nouvelle-Calédonie, présidé par Jean-Louis d'Anglebert, est régulièrement consulté pour avis sur les textes examinés par le Congrès. Il devrait également l'être sur les questions budgétaires, estime le président du CESE. Dominique Vienne souligne l'importance d'associer la société civile à la législation et à la réglementation. Et pourtant, vous le savez, le rôle des CESE est souvent remis en cause. Certains envisagent même leur suppression. La réaction de Dominique Vienne.
C'est, à un moment donné, on pourra dire aux gens, respirer une fois sur deux, ça fera des économies, c'est pas vrai. À un moment donné, il faut de l'oxygène. Et les CESE sont un espace d'oxygène, puisque nous sommes, encore une fois, hors catégoriel. J'aime à dire, l'intérêt individuel, généralement, il est dans le catégoriel. Les syndicats d'employeurs, les syndicats de salariés, les associations. Nous, on transforme ça en intérêt commun. Et cet intérêt commun, on le remet aux politiques qui, lui, est légitime pour faire l'intérêt général. Ce processus individuel, catégoriel, commun, général, c'est un processus qui, quelque part, est naturel.
Dominique Vienne, le président du Conseil économique, social, environnemental et régional, depuis vendredi, la délégation a eu de nombreux entretiens protocolaires. Dans les prochains jours, elle doit se rendre sur le terrain. Une interview à retrouver en audio et vidéo sur le site internet d'RRB.
En bref, la communauté du Pacifique lance un appel à candidature. Des jeunes âgés de 18 à 30 ans sont recherchés pour participer à un programme de prévention des maladies non transmissibles, les MNT. On parle par exemple de diabète, de maladies cardiovasculaires ou même de cancer, des maladies qui peuvent être évitées si l'on change certains comportements à risque. Les jeunes ambassadeurs sélectionnés pourront participer à des sessions de formation sur la prévention et le contrôle de ces maladies et pourront aussi mettre en œuvre des activités innovantes pour sensibiliser leur communauté. Les personnes intéressées ont jusqu'au 30 avril pour candidater. Les renseignements sont disponibles sur le site de la CPS. À noter que l'appel à candidature est ouvert à l'ensemble des 22 pays et territoires membres de la communauté du Pacifique. L'environnement au cœur d'une journée de rencontres qui se déroule à Bouraille. Une trentaine d'associations sont rassemblées sous l'impulsion de l'Office français de la biodiversité pour partager leurs actions et parler de leur situation. La matinée a débuté par quelques discours d'ouverture, notamment du membre du gouvernement en charge de la transition écologique et du changement climatique, Jérémy Catigeau-Monnier. Puis les associations ont défilé. Elles viennent de tout le territoire et ont un point commun, agir pour l'environnement. Le maire du Bouraille, Patrick Roblin, a accueilli l'événement dans sa commune.
Je crois que l'enjeu, c'est de faire rencontrer toutes les associations qui travaillent sur l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Il y a des associations qui travaillent sur les oiseaux de mer, sur les espèces végétales endémiques, sur les tortues, sur les dauphins, etc., etc. L'objectif, c'était de regrouper toutes les associations qui travaillent sur l'environnement. Avec la crise que traverse la Nouvelle-Calédonie, pratiquement toutes les associations ont abordé ce problème de financement. Chacune s'est tournée vers l'OFB, vers d'autres financeurs, ont revu leur programme à la baisse. Voilà, chacun s'est adapté à la situation actuelle. Les associations sont là pour dire on existe, on traverse quelques difficultés, mais voilà, on s'adapte et on continue de faire notre travail autant que possible.
Et la matinée se poursuit avec un temps de questions-réponses. Un film débat sera organisé cet après-midi pour une clôture de l'événement aux alentours de 17h. Il est 11h46, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Vous, oui, vous. Vous êtes propriétaire d'un logement meublé et souhaitez le louer? Ça tombe bien. Cahiers et Cadeaux Immobilier recherche activement des biens meublés à la location. Profitez de notre offre, frais d'agence location offerts pour les propriétaires et réduits pour les locataires. On a tous une bonne raison d'aimer le meublé avec Cahiers et Cadeaux Immobilier. Contactez-nous au 24 24 24 ou sur notre page Facebook.
Besoin d'une clôture? Nous l'avons. La Maison de la Clôture est spécialisée dans la vente et la pose de tout type de clôture. Particuliers et professionnels, nous avons du choix et du stock. Info Facebook, la Maison de la Clôture.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
MyPrimeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook MyPrimeur Nouméa. Du lundi au dimanche, MyPrimeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, 11h-13h, Infomag, Lionel Sabot.
Et la tension est encore montée d'un cran entre la France et l'Algérie. Très tôt ce matin pour nous, l'Algérie a refusé la liste de noms d'une soixantaine de ressortissants algériens à expulser. Liste soumise par les autorités françaises il y a déjà quelques jours. La démarche est rejetée sur la forme et sur le fond par Alger, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Jacques Sauret pour Europe 1.
Le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien tient sur une page et c'est un non catégorique. L'Algérie, je cite, réaffirme son rejet des menaces et des velléités d'intimidation, ainsi que des injonctions, des ultimatums et de tout langage discriminatoire. Au passage, Alger parle de l'ambassadeur français comme d'un simple chargé d'affaires. Alger explique n'être animé que par le souci de s'acquitter de son devoir de protection consulaire à l'égard de ses ressortissants et considère que Paris ne peut décider de remettre en cause le canal traditionnel de traitement des dossiers d'éloignement, un canal qui, rappelons-le, ne fonctionne pas avec un taux d'exécution d'OQTF pour les ressortissants algériens de seulement 7%. Une réponse donc qui ne restera pas sans conséquence. Bruno Retailleau promet le déclenchement d'une riposte graduée. Au bout de la riposte, il y aura la remise en cause des accords de 1968, promet le ministre de l'Intérieur qui entend bien tenir parole, allant jusqu'à menacer de démissionner en cas d'empêchement.
Jacques Sauret du service politique d'Europe 1. Actualité sociale en métropole toujours, où l'on parle des retraites. La gauche se dit trahie. Les syndicats demandent des clarifications alors que le conclave sur les retraites doit se tenir entre partenaires sociaux jusqu'à la fin du mois de mai. Le Premier ministre François Bayrou a fermé la porte à un retour à la retraite à 62 ans. François Bayrou qui a reçu le soutien de sa ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin.
La retraite à 62 ans, avec le cadrage qui a été fixé, de revenir à l'équilibre du système des retraites en 2030, c'est pas qu'on dit que c'est fini ou pas fini, c'est juste que c'est pas réaliste. Maintenant, ce qu'il faut dans notre pays, c'est que nous arrivions collectivement à nous dire que la démocratie sociale est un gain.
Voilà, Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, invitée d'Europe 1 hier soir pour nous. Dans l'actualité de ce mardi midi également, Jean-Luc Mélenchon, très virulent à l'endroit d'un journaliste de France 3, alors qu'il l'interrogeait à propos de l'affiche diffusée par la France par la France insoumise, qui représente Cyril Hanouna en reprenant les codes de l'extrême droite antisémite des années 40. Ces visuels ont été dénoncés par de très nombreux responsables politiques, mais le leader de la France insoumise a refusé de répondre sur le sujet en s'en prenant violemment au journaliste Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
Pourquoi vous me posez cette question ? De quel droit ? De quel droit ? Qui vous êtes ?
Parce que c'est vous.
Vous m'accusez ? Est-ce que vous m'accusez ?
Pas du tout.
Alors, taisez-vous.
Ce dérapage remet une pièce dans la machine, reconnaît un membre de la France insoumise, alors que le parti de Jean-Luc Mélenchon est au cœur d'une polémique sur fond d'antisémitisme. En interne, un insoumis de premier plan qualifie ce visuel de dégueulasse. Le responsable est soit un connard inculte, soit une ordure antisémite, confie cet élu à l'Opinion. Un seul député insoumis ose se rebeller publiquement, c'est Émeric Caron. Nous sommes tous impactés à nouveau par ces communications catastrophiques, met en garde l'ancien journaliste. Pour Raquel Garrido, l'ex-insoumise, il n'y a pas de place pour le doute.
Quand on a un minimum de culture politique, on sait que cette image-là, elle est directement tirée de l'iconographie antisémite des années 30. On le sait, c'est le juif sus, le juif éternel, ce sont des images qui sont connues.
L'ensemble de la gauche s'insurge contre Jean-Luc Mélenchon. Une saloperie antisémite renouvelée chaque semaine, ça devient une ligne politique, assure la sénatrice socialiste Laurence Rossignol. Infamant et ignoble, répond de son côté le patron des communistes Fabien Roussel, lui aussi attaqué par la France insoumise.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. Direction à présent la région parisienne et la ville de Conflans-Sainte-Honorine. Plus de 4 ans et demi après l'assassinat de Samuel Paty par un islamiste, le collège où enseignait Samuel Paty porte désormais le nom du professeur assassiné. L'inauguration de la plaque commémorative s'est déroulée en fin de semaine dernière et hier, lundi, pour la première fois, les élèves du collège découvraient cette plaque.
C'est normal, hein. Il y a un prof qui est mort et je crois, oui, il fallait le faire. En l'honneur de Samuel Paty qui s'est assassiné par un terroriste islamiste. Hein. C'est important pour moi, je trouve.
Par exemple, les sixièmes, ils sont arrivés cette année, ils sont peut-être pas forcément au courant. Et qu'aussi, ça part des réseaux sociaux aussi, de mettre un peu une prévention, quoi.
Un témoignage d'élèves du désormais collège Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, recueilli par nos confrères d'Europe 1. En métropole toujours, ce terrible accident dans le Nord, une voiture transportant des militaires a été percutée par un train. Le bilan est très lourd puisque 2 militaires ont été tués et un autre a été très grièvement blessé. Maximilien Carlier pour Europe 1.
J'ai entendu un train klaxonner. Et puis, d'un seul coup, j'ai entendu un gros boom.
L'accident entre un TER et un 4x4 transportant des militaires, raconté par Lionel. Ce voisin est arrivé en premier sur place.
Il y avait un corps qui était sur le côté, puis il y avait encore un corps qui était coincé dans la voiture. Ça fait tout drôle. De voir la voiture déjà abîmée comme ça, un bloqué de ferraille, il n'y avait plus rien, c'est tout.
2 militaires sont morts, un autre est toujours dans un état grave. Une centaine de passagers du TER évacués, un seul blessé léger. Mathilde, une habitante, se demande comment ce drame a pu se produire.
Je passe souvent sur le passage à niveau, mais j'ai jamais eu de problème avec les barrières. Comment ils ont fait pour eux ? Ils ont forcé, ils ont voulu passer à travers pour aller plus vite, c'est... Je comprends pas.
Mais on fera beaucoup plus attention, conclut cette riveraine profondément marquée après cet accident. Le parquet d'Arras a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame. Bayeul Sierbertou, Maximilien Carlier, Europe 1.
En bref, ce premier déplacement à l'étranger pour le nouveau Premier ministre canadien, Mac Carney. Il a été reçu à l'Élysée cette nuit pour nous par Emmanuel Macron. Rencontre entre les deux hommes dans un contexte de guerre commerciale avec les États-Unis. Le Premier ministre canadien a rappelé la nécessité de renforcer les liens avec les alliés fiables comme la France. Et puis à l'étranger, le Kremlin a confirmé l'appel téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Un appel entre les deux présidents qui devrait avoir lieu demain soir pour nous. Il est 11h53, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive et puis ensuite ce sera notre magazine citoyen présenté par Jean-François Bodin et consacré à la semaine de la langue française et de la francophonie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Ce sont les soldes chez Jardiland. Du 22 février au 23 mars, transformez des petits prix en grand plaisir avec notre salon de jardin multifonction Diego à 30 000 francs seulement. Alors profitez-en pour aménager votre jardin. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
La Cave du Château, deux adresses pour une expérience unique. Retrouvez-nous au complexe Château Royal, 140 promenade Roger Larocque en Svata, et complexe Le 4, 186 rue Jacquier-Caoué au 4e kilomètre. Deux adresses pour mieux vous servir et vous conseiller pour tous vos moments et toutes vos envies. Consultez toutes nos références sur notre site lacavduchâteau.nc, ouvert du lundi au samedi. Retrouvez nos horaires sur notre page Facebook La Cave du Château.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Lionel Sabot.
Et on va commencer avec du golf et le nord-irlandais Rory McIlroy qui a remporté ce matin pour la deuxième fois de sa carrière le Players Championship en battant en play-off l'américain Gigi Spawn sur le parcours du TPC Sawgrass en Floride. La météo avait empêché les deux joueurs de se départager hier à l'issue du quatrième tour de ce tournoi qui est considéré comme le cinquième majeur de la saison. Ce matin, McIlroy s'est montré solide sur les trois trous de play-off quand son adversaire a perdu pied sur le deuxième trou où il a concédé un triple bogey. Ce succès, son 28e sur le circuit PGA, est le deuxième de la saison pour McIlroy après Pebble Beach début février. Le golfeur de 35 ans qui se prépare désormais pour le Masters d'Augusta, ce sera le mois prochain. C'est le seul tournoi majeur manquant à son palmarès. L'actualité sportive, c'est aussi cette polémique qui ne cesse de prendre de l'ampleur depuis ce week-end. Au cours du match de Ligue 1 entre Angers et Monaco, à la 13e minute de jeu, un joueur angevin tombe à terre pour une blessure après un contact avec un joueur monégasque. Jusque-là, rien de bien très anormal dans un match de football. Néanmoins, il apparaît que l'interruption du jeu aurait permis au joueur de confession musulmane de rompre le jeûne du Ramadan. Toute la question est désormais de savoir s'il y a eu une entente afin que certains joueurs puissent donc rompre le jeûne. Cyril de la Romorinerie pour Europe 1.
Oui, selon le président d'Angers, joint par Europe 1, et qui était présent au match. Alors, il me précise que le joueur en question était véritablement blessé lorsque c'est arrivé à la 13e minute. En revanche, il y aurait eu donc entente entre ces deux clubs pour permettre à ces joueurs de s'arrêter quelques minutes. Dans le calme, ils ont pu s'hydrater, confirme le patron du club angevin, Saïd Chaban.
Les deux clubs, donc les deux team managers se sont mis d'accord pour le bien-être des joueurs. Et la question a été posée aux délégués et à l'arbitre qui ont donné leur accord. Et puis... les choses sont faites d'une manière intelligente. Donc je ne vois pas pourquoi la polémique. On est dans un pays où le bien vivre ensemble est important. Voilà, ça a duré une ou deux minutes et le match a repris tranquillement.
Une version en partie contredite par le président de la commission arbitrale de la Fédération. D'après Eric Borghini, l'arbitre a refusé d'interrompre la rencontre pour des raisons religieuses. En réalité, Willy Delajoie a stoppé le match après la blessure d'un joueur, le capitaine d'Angers. Et lors de cette pause réglementaire, les footballeurs de confession musulmane en ont profité pour se désaltérer, affirme Eric Borghini.
Pas du tout par une décision volontaire de l'arbitre d'arrêter le jeu pour permettre aux joueurs musulmans pratiquants des deux équipes de rompre le jeûne, qu'il a arrêté le jeu. Mais c'est bien par application des lois du jeu que nous appliquons en France.
Car stopper un match pour des raisons religieuses est totalement interdit par les règlements de la fédération au nom du respect de la laïcité. Et c'est tout l'inverse en Angleterre ou en Allemagne ou encore en Ligue des Champions, puisque Leeds Dortmund, la semaine dernière, a été interrompu au moment de la rupture du jeu.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. La fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.